Bon, nous prenons maintenant le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, le péché a pris, d'une certaine manière, symbolisé par l'Égypte, a pris le peuple d'Israël. Alors, jusque-là, il y avait, au fond, le péché qui avait pris l'humanité tout entière, à travers, justement, les épisodes de Noé et de l'Arche. Et Noé, quand il sort de l'Arche, va donner naissance à toutes les nations, à toute l'humanité, les 70 nations. Et là, ici, c'est Israël qui est pris par le péché, c'est-à-dire symbolisé par le point de vue de l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du péché. Le péché prend possession d'Israël. C'est-à-dire que les fils de Jacob, lorsqu'ils rentrent en Égypte, sont comme esclaves. Ils sont pris par l'Égypte. La famine, les amis, est en Égypte. Et l'Égypte, c'est le mal. L'Égypte, il faut sortir de l'Égypte. Et la grande purification, vous savez bien, des 40 ans dans le désert, c'est de sortir de l'Égypte pour retrouver la terre promise, c'est-à-dire le Messie, le paradis. N'est-ce pas ? Le cœur de Jésus ressuscité, c'est notre paradis, c'est notre terre promise. Donc sortir du péché, rentrer dans la grande purification du désert, et enfin aboutir dans la terre promise. Donc tout le livre de l'Exode est également un petit microcosme prophétique du sacrement et du mystère de la confession. Donc ce serait très intéressant de le regarder, mais alors là, il n'y a évidemment pas beaucoup de temps pour cela. Bon, je vais quand même regarder quelques petits points. En tout cas, lorsque les rabbins disent, je crois que c'est dans le Midrash Rabbah, sauf erreur, que, à propos de l'Exode, que lorsque Israël a été en Égypte, avec Jacob et tous les fils d'Israël, ils étaient en tout 70. D'ailleurs, c'est même l'Écriture qui dit. Je crois que ça doit être à la fin du livre de la Genèse. Ils étaient 70. Donc, il y avait le peuple, la petite tribu, ils étaient 70 en tout. Donc, vous voyez bien qu'Israël représente, dans ce mystère de la confession, toute l'humanité. 70, je vous l'ai dit, ça représente toute l'humanité. Les 70 nations qui sont sorties de Noé. Ils sont sortis de la mort physique, mais il faut encore qu'ils soient restitués dans une vie éternelle. Et c'est par le peuple d'Israël, les 70 en Égypte, que ça va se faire. Et voyez, comme nous, pour la confession, on ne se confesse pas dans le mystère de la confession, nous ne nous confessons pas pour nous. Nous nous confessons pour toute l'humanité. Et nous prenons conscience, quand nous nous confessons pour toute l'humanité, que ce sacrement, ce mystère de la confession est lié au mystère du corps mystique, de l'Eucharistie. Comme je vous l'ai dit, ces deux choses, ces deux mystères sont indissociables. Je vais, par la confession, au corps mystique qu'est l'Eucharistie, et le corps mystique qu'est l'Eucharistie me fait accéder au mystère de la confession. Et de la confession, je retourne au mystère du corps mystique dans l'Eucharistie. C'est frappé ce que dit Paul VI, le pape Paul VI. Le pape Paul VI qui faisait remarquer dans Mysterium Fidei, n'est-ce pas, une encyclique sur l'Eucharistie, en disant il est très très curieux et il est très notable de constater que l'expression corps mystique a été employée dans l'Église jusqu'au XIIe siècle pour désigner l'Eucharistie. Et qu'à partir du XIIe siècle, cette expression s'attribue peu à peu au mystère de l'Église. C'est vrai, corps mystique avant, c'était pour dire le corps, le Jésus aussi, quoi. L'Eucharistie. Et aujourd'hui, quand on dit corps mystique, on pense l'Église. Et c'est normal. De sorte que si je vide l'Eucharistie, vous voyez bien dans Joseph, l'Eucharistie avec le mystère de Joseph que nous avons vu tout de suite, on voit que l'Eucharistie, il y a le pardon, la nourriture, l'holocauste et le repas, et l'absolution, comme si l'Eucharistie était au cœur du mystère de la confession. C'est normal, parce que dans les actes du pécheur que je livre au Christ, vous voyez, dans le sacrement de la confession, je donne quoi? Je donne mes actes, et du coup, je reçois ce que fait le Christ, ce que fait le Verbe éternellement. Tandis que dans le sacrement de l'Eucharistie, je reçois ce qu'est le Verbe incarné. Je reçois l'être du Christ. À travers la confession, je reçois ce qu'il fait, ce qu'il vit, sa confession. Et donc les deux sont indissociables, là encore, vous voyez, c'est une transsubstantiation, l'Eucharistie. C'est vrai, le corps, le pain et le vin sont transsubstantiés, et c'est ceci est mon corps. C'est par le point de vue de l'être. Tandis que dans la confession, vous voyez bien que c'est différent. C'est autre chose. C'est ce que vit le Christ, de l'incarnation jusqu'à la mort et dans la résurrection, et du coup éternellement ce qu'il vit face au Père. Il est ouvert et il montre ce qu'il est au Père, et c'est sa béatitude. De se montrer tel qu'il est, voilà ce qu'il fait, et confesse ce qu'il est. Et c'est ça sa vie. Alors, vous voyez bien que donc, si on veut vivre de Jésus, on vit de ce qu'il est et on vit de ce qu'il vit. Celui qui voudrait prendre uniquement ce qu'il est, sans prendre ce qu'il vit, c'est qu'il n'aurait rien compris du tout, puisque l'être et la vie sont distinctes, mais sont inséparables. Tiens, si je veux prendre ton être, sans prendre ta vie, j'y arriverai pas. Si je veux prendre ta vie sans prendre ton être, ce serait un mensonge. Il y a des gens qui prennent la vie de quelqu'un qui se marie, mais qui n'accueillent pas la personne de l'autre. C'est un mensonge. C'est sûr. Donc, dans le livre de l'Exode, ils étaient 70 au départ. Ils sont restés 430 ans en Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, ils étaient 600 000. C'est quand même pas mal. Ils se sont pas mal multipliés. Il y a eu une sacrée prolifération. Vous voyez, le mystère du péché. Alors, et puis de la prolifération de la maternité et de la paternité. Alors, ça marche très très fort. Ça. Et ça, tout le livre de l'Exode, c'est pour montrer ça. Et Pharaon et les Égyptiens sont effrayés. Tu vois, mais c'est pire que des lapins. Tu dors la nuit, le lendemain matin, il y en a deux fois plus. C'est affolant. Et alors on voit, et puis ils commencent à avoir peur. Un peu comme certaines personnes en France. Ils disent, mais c'est effrayant. Alors quoi, on dit qu'il y en a 2 millions, en fait il y en a 8 millions. Enfin, ça dépend des statistiques. Et maintenant, non, à propos de certains... Bon, c'est vrai, à propos des... Ben oui. Moi, je vais leur dire, écoutez, vous pouvez me mettre dans les statistiques, je suis arabe aussi. Vous voyez, je suis arabe, moi. Alors, donc, on va mettre dans les statistiques tous les beurres, mais ceux qui sont beurres depuis longtemps, quoi. Donc, je suis beurre, moi. Je suis un beurre. Bon, ça fait plus longtemps qu'eux, mais... L'origine. Azaïs. Père Azaïs. N'est-ce pas? Mais alors là, c'est vrai, il y en a qui sont un peu effrayés de ça, de voir cette espèce de prolifération extraordinaire. Ça ne nous fait pas peur du tout, la prolifération. On a enfin des gens évangélisés, c'est bien. Tous les gens qui sont venus en France, ils ont rencontré Jésus, Marie, quelque part, tous, à la troisième génération. Donc ça fait 8 millions de chrétiens de plus dans une génération, c'est bon. Moi, à chaque fois que je vois un musulman qui rentre dans mon ermitage, il se fait baptiser dans l'année et demie, dans l'année qui vient. Parce que ça, il le sait bien. Il s'agit de beurre, hein, c'est-à-dire il s'agit de fils de... Mais tous ceux qui sont passés chez moi, qui sont musulmans, ils ont tous décidé le baptême. Tous. Bah, jusqu'à maintenant, ça fait que 3, mais... C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, ça. C'est un bon début. Jésus... Ça fera beaucoup après. Non, mais c'est vrai. Ça fait 100%. La statistique, c'est important. Bon. C'est sûr. Bon. Alors, donc, vous voyez, c'est à l'occasion précisément de l'Exode que Dieu va délivrer son peuple et qu'il va donner à Israël sa liturgie. Et c'est pour ça que c'est important de regarder au moins quelques points sur le livre de l'Exode. Vous savez qu'il y a trois grandes liturgies en Israël, avec Moïse. Et les trois grandes liturgies en Israël, c'est la Pâque, justement pour rappeler cette délivrance d'Égypte. Et la Pâque, dans sa liturgie, nous l'avons vu l'année dernière, symbolise, enfin est reprise par l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le mémorial de la Pâque. C'est l'agneau immolé qu'on mange. Et on se rappelle que l'agneau immolé qu'on mange nous fait passer de cette vie terrestre, de ce temps, à l'éternité. Bon. Il y a la fête de la Pentecôte. La Pentecôte est une grande fête en Israël. Et puis, il y a la fête des tabernacles. Et vous voyez, dans l'Église, on a repris, du reste, la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques. Mais la fête des tentes, la fête des tabernacles, il n'y a plus de traces. Curieuse, cette histoire. Il n'y a plus de traces. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fête des tabernacles? La fête des tabernacles, c'est précisément la fête qui correspond au mystère de la confession. Et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on regarde. Ça, c'est une inconnue totale dans le monde chrétien, de savoir qu'est-ce que c'est que cette fête du Kippour. Le Kippour, la fête du pardon. Vous voyez, Kippour, on retrouve le Kappar, c'est les mêmes lettres, Kippour. Ça s'écrit pareil que pardonner, la fête du Kippour. Eh bien, la fête du Kippour, on va regarder un petit peu ça, mais on va d'abord voir un petit peu comment ça s'est passé entre Pharaon et les Égyptiens. Alors, Exode, livre de l'Exode, chapitre 6, verset 6. Donc Dieu parla à Moïse en disant, « Je suis le Seigneur, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom de Yéhoah, je ne me suis pas fait connaître à eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis le Seigneur. Je vous affranchirai des corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai avec un bras étendu et par de grands jugements. » Ah. Et avant, il aurait peut-être fallu que l'on lise le chapitre premier du livre de l'Exode, où on voit que le roi d'Égypte décide d'opprimer, il commence à voir qu'il y a la prolifération des enfants d'Israël, et il décide quand même d'arrêter tout ça. Et donc il y a quatre décrets qui vont être prononcés par Pharaon. Et comme il y a quatre décrets qui vont être prononcés par Pharaon pour arrêter le fait que ce peuple d'Israël prolifère au milieu d'un monde de péché, de l'Égypte. Donc ce peuple élu prolifère au milieu du péché. Voyez bien. Parce que c'est gênant quand même pour l'Égypte qui est le péché que le lieu du salut prolifère. Et donc il va y avoir quatre grands décrets de Pharaon pour empêcher ça. Et du coup il y aura quatre actes sauveurs de Dieu. Et évidemment ces quatre sont une chose importante pour la structure, peut-être du mystère, c'est ce que C'est ce qu'on pourrait essayer de regarder. Donc le premier décret. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons des mesures contre lui, de peur qu'il ne s'accroisse, et qu'une guerre survenant, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ne sorte ensuite du pays. » Les Égyptiens établirent donc sur Israël des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux amers. Mara. Des travaux amers. Donc, premier décret, rendre la vie amère au peuple d'Israël, de manière à ce que, dans l'amertume, ils ne soient plus dans la joie d'être ensemble, et du coup, eh bien, qu'ils ne fassent pas autant d'enfants. Parce que c'est dans la joie qu'on fait beaucoup d'enfants. Alors on fait des travaux amers, on met des chefs de corvée, on les accable. Et c'est ainsi qu'il bâtit des villes pour servir de magasins à Pharaon, savoir Pitom, Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et on prit en aversion les enfants d'Israël. Les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force, ils leur rendaient la vie amère. Par de rudes travaux, mortiers, briques et toutes sortes de travaux des champs, tout le travail qu'il leur imposait avec dureté. Avec le péché, la vie devient amère. Avec le péché, c'est vrai, avec le fait, ce qu'on est, nous met dans l'amertume. Ce qui vient de Dieu en nous, fait que quand même on survit. Et ce qui vient de nous, nous rend amère. C'est curieux ça. Parce que tout ce qu'on fait qui est bien, ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. Vous savez bien, on l'a dit. Alors, le deuxième décret. Alors, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une se nommait Séphora et l'autre Phua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le double siège, si c'est un fils, faites-le mourir, si c'est une fille, elle peut vivre. Donc le deuxième décret, vous voyez, c'est d'empêcher naturellement les naissances. C'est un deuxième décret de Pharaon, et pour ça, il utilise les femmes, les vous voyez, c'est évidemment, c'est Séphora, il n'y avait pas deux sages-femmes pour combien j'avais dit, 600 000, pour 600 000, c'est sûr. Et ce deuxième décret, donc, vous voyez bien, les sages-femmes craignirent Dieu. Et ne firent pas comme avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les garçons. Vous voyez ? Donc à chaque fois que Pharaon fait un décret, ça ne marche pas. Et là, c'est à cause de la crainte de Dieu. C'est très curieux ça. Parce que la naissance d'un garçon met toujours une femme dans la crainte de Dieu. Même la femme, même la sage-femme, la naissance d'un garçon et d'une fille. Alors le roi d'Égypte fit venir les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les garçons? Donnez la vie. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne ressemblent pas aux Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles prennent un subterfuge. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devient nombreux et extrêmement fort. Parce que les femmes avaient craint Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Du coup, le troisième décret de Pharaon. Et au fond, le péché met dans l'amertume et le péché nous empêche de donner la vie. Et nous empêche de craindre Dieu. Et plus on est dans le péché, moins on craint Dieu. Et plus on est dans le péché, moins on a peur d'être séparé de Dieu. Et moins on croit qu'on est séparé de Dieu. Et plus on croit que c'est bien ce qu'on fait. Et plus, au contraire, on est dans le Christ, plus on est dans cette délicatesse qui fait que le péché est pour nous une souffrance insupportable. Et on a peur de faire état
quelconque complicité, même la plus infime qui soit, avec quelconque faute, quelconque péché, quel qu'il soit. On ne veut pas se séparer de Dieu. Dès qu'on est avec Christ, dès qu'on est avec ce mystère de la confession, dès qu'on est rentré dans le mystère de la confession, c'est-à-dire de la vie de Jésus. Et le troisième décret, Pharaon, du coup, donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout fils qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors là, carrément, rejeter les mâles dans l'eau, dans le Nil. Voyez. Alors là, il y avait une petite. Plus tard, chez les Hébreux, il y avait un petit rite qu'on appelait le rite du Tashmir. T-A-S-H-M-I-R. Le Tashmir. Le Tashmir, c'est un rite selon lequel. On faisait une espèce de prière au bord du fleuve. On demandait aux hommes d'arracher un certain nombre d'éléments sur eux et de les jeter dans l'eau. Et à travers ça, on leur demandait de mettre les péchés dans ces éléments. Je sais pas, ça pouvait être des morceaux de tissu, etc. Ce qu'ils portaient. Et puis, ils mettaient leurs péchés dedans et ils jetaient le péché dans l'eau. C'est le Tashmir. C'est rejeter, c'est de là que viennent tous les petits rites qu'on trouve aujourd'hui au niveau de l'envoûtement ou du désenvoûtement. Vous voyez, on prend un élément, on met le mal et on le jette quelque part. Parce qu'on reprend beaucoup le Nouvel Âge, vous voyez, en disant je prends les énergies, je dégage des énergies, les parasites, je les détache de mes énergies et puis je les jette dans la lumière cosmique, n'est-ce pas, pour m'en débarrasser. C'est le Tashmir qui est derrière. Et les rabbins n'ont jamais aimé ce rite, parce qu'ils ont toujours considéré que c'était un rite un petit peu de superstition, un rite idolâtrique. Parce que ce rite vient justement de ce que Pharaon, de ce qui se pratiquait chez les Égyptiens. Les Égyptiens pratiquaient cela. Pour se débarrasser d'un mal qui était sur eux, il faut pratiquer un rite magique, ils détachaient une conséquence du mal qui était sur eux, ils s'en détachaient par l'intermédiaire d'un espèce de sacramental, et puis il jetait ça dans l'eau. Et donc c'était un rite magique. Vous voyez? Et là, ça devient de pire en pire, puisque ce décret considère, c'est de considérer que finalement, le fils d'un Hébreu, le fils d'un peuple de Dieu, le fils d'un élu, le fils du peuple élu, c'est un péché. Et donc, on traite les enfants de l'élection, les enfants qui sont liés à Dieu, on les traite comme on traite un péché. C'est mal. Plus on est dans le péché, en effet, plus on va considérer que l'union à Dieu est un mal, et quelque chose qui est mal, qu'il faut rejeter, et qu'il faut tuer, qu'il faut supprimer. Voilà. Le quatrième décret. Qui est un petit peu plus loin. Je n'ai pas noté malheureusement le verset. Mais je vous le dis, c'est que Pharaon décide finalement, puisque ça ne marche pas non plus, n'est-ce pas, qu'il n'ait plus de repos. Ça marche quand même pas mal, puisque vous savez, vous connaissez l'épisode de Moïse, il a fallu quand même que... Il n'y avait plus beaucoup de garçons, hein. Vous le savez bien, puisque après, quand Moïse va retrouver le prêtre Jéthro, n'est-ce pas, et il va se marier avec une de ses filles, il y a sept filles, hein, mais il n'y a pas un garçon. Hein. Vous savez bien, ça a quand même marché. Mais enfin, comme le peuple d'Israël est encore très très vigoureux, a beaucoup de courage, alors finalement, il décide qu'il n'ait plus de repos. Et ça, je crois que c'est dans le Midrash peut-être aussi qu'on a ces commentaires sur ce quatrième décret. Un quatrième décret qui dit, ben oui, parce que les femmes d'Israël, malgré cela, eh ben, ils venaient. Il a, dans ce quatrième décret, il a fait en fait des espèces de camps de concentration. Il a organisé les grands camps de concentration, et donc tous les hommes étaient dans les camps de concentration, et les femmes devaient être séparées. Parce que les femmes venaient, même la nuit, ne serait-ce qu'une heure, pendant le petit moment de repos, voir leur mari. et puis repartait. Alors pour empêcher cela, il dit qu'il n'y ait plus un seul moment de repos, et qu'il n'y ait plus un seul moment de vie de famille, et qu'on supprime toute possibilité qu'il y ait une vie de famille en Israël et chez les Hébreux. Et c'était le quatrième décret. Et le quatrième décret, pour empêcher donc la vie de famille, parce que la vie de famille, précisément, c'est à travers la vie de famille chez les Hébreux qu'on vit de la crainte de Dieu. Et on va maintenant supprimer le point de vue de l'éducation de ce qui reste. Puisqu'on n'arrive pas à faire à les supprimer, d'une certaine manière, on va supprimer le fait qu'ils craignent Dieu et qu'ils aient cette unité familiale, cette unité tribale, cette unité du peuple de Dieu. Donc on va supprimer la possibilité de l'éducation et donc de la crainte de Dieu. C'est le quatrième décret. À partir de ces quatre décrets, il y a une correspondance avec, et c'est ça le livre de l'Exode, c'est que c'est au moment du premier décret, disent les Midrash, que il va y avoir la naissance de Myriam. Premier décret. C'est l'occasion du premier décret, et vous voyez, il n'a pas marché, puisque en effet, Dieu a donné naissance à cette petite prophétesse qui sera d'ailleurs la grande sœur de Moïse et la grande sœur d'Aaron. Donc le premier décret du mal donne une grâce. Myriam, vous le sentez bien, ça prophétise l'aurore du christianisme à travers le point de vue de Marie. D'ailleurs, c'est le même prénom qu'avait Marie, Myriam. Donc la naissance de Myriam, d'un père et d'une mère qui s'appelaient Amram et Jochebed. Et Jochebed, c'est également dans le livre de l'Exode, cela. Et Amram et Jochebed ne respectent pas le décret, ou du moins l'intention du décret de Pharaon, et donnent naissance à Myriam. Puis, à l'occasion du second décret, où Pharaon essaye d'empêcher naturellement les naissances, l'épisode des sages-femmes, eh bien, il y aura la naissance d'Aaron. C'est quand ce décret va sortir que Aaron va naître. Et effectivement, Myriam va jouer un rôle très important. Dans le Midrash, les rabbins rappellent que, c'est pas dans le livre de l'Exode, que Myriam a dit à Amram et à Jochebed en disant, mais enfin, vous respectez, parce que c'était un petit peu Amram qui était devenu le chef de la communauté. Hein. Amram était un peu le grand représentant d'Israël. Et donc, elle dit à Amram, mais enfin, il ne faut pas obéir à ça. Le peuple, nous sommes une famille, nous sommes une seule personne. Et il ne faut pas respecter, nous sommes dans la main de Dieu. Et donc, s'ils disent que tu ne peux pas avoir de fils, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu t'es séparé avec ta femme, et tu ne dois pas le faire. Regarde maintenant, ils veulent supprimer tous les enfants d'Israël. Il faut que nous reconstitutions le tissu d'Israël, et il faut que vous vous remariez de nouveau. Et alors, le Midrash dit que Amram a reconstitué une grande fête pour exprimer qu'il se remariait avec Jochebed. Et il y a eu de nouvelles noces. Et de là naquit Aaron, qui a joué le rôle du prêtre, puisque Aaron a été nommé prêtre. C'est lui le premier prêtre en Israël. Aaron, vous savez, c'est le prêtre du sacerdoce lévitique, hein, pas du prêtre du sacerdoce chrétien. Hein. Prêtre du sacerdoce, celui qui devait offrir les sacrifices dans le Saint des Saints. Et c'est lui. Le troisième décret, où il s'agissait de rejeter les mâles dans le Nil, là, encore une fois, là, c'était terrible, hein, parce que c'est encore Myriam qui dit à ses parents, « Allez, allez, allez !» À partir du moment où sa mère a été enceinte, c'est moi qui m'occuperai de tout. Et on s'aperçoit effectivement dans le livre de l'Exode que c'est Myriam qui s'occupe de tout. Et quand il y a ce troisième décret qui est terrible, qui consiste à dire que, au fond, les hommes, il faut les jeter dans le Nil. Les enfants de Dieu, il faut les jeter dans le Nil parce qu'ils sont pleins de péchés. Il n'y a pas de pardon. Et c'est à ce moment-là que, précisément, va naître Moïse. Le troisième décret est comme la réponse de Dieu, c'est la naissance de Moïse. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Et il a été mis dans un panier qui était kappa, qui était enduit, comme l'arche. C'est le même mot. Donc, qui était enduit. Il a été sauvé par le pardon à l'intérieur et à l'extérieur d'une petite caisse en osier, c'est pas, mais qui était enduite de bitume. Kappa. Et là, on a ici à nouveau le point de vue du pardon. Alors, du coup, effectivement, il y a au chapitre, c'est pour ça que c'est à cause de tous ces préambules que je vous lisais tout à l'heure, le chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, il va y avoir enfin quatre décrets qui correspondent également à tout cela. Quatre décrets, c'est pourquoi, de Dieu. Premier décret, dit aux enfants d'Israël, chapitre 6, verset 6, je suis le Seigneur, je vous affranchirai des corvées des Égyptiens, je vous ferai sortir de l'esclavage, et je vous sauverai avec un bras étendu et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui vous affranchit de la corvée des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession, je suis le Seigneur. Vous voyez bien que là-dedans, dans ce décret d'alliance avec Moïse, cette promesse que fait Dieu, il y a quatre affirmations. La première, je vous ferai sortir de l'esclavage, ce qui correspond au premier décret. Pharaon met tout le peuple d'Israël en esclavage. Je vous délivrerai de la servitude et je vous ferai passer de la servitude à la liberté pour faire de vous un peuple libre. Parce que Héber, ça veut dire libre. Hein. Héber, les Hébreux. Héber, c'est un des fils d'Adam, vous savez. Un des fils de Noé, pardon. Un des petits-fils de Noé. Et donc Héber, ça définit les Hébreux. Ça veut dire ceci exactement. Héber, de racine habar, qui veut dire passer. Héber, c'est celui qui passe au-delà des ultimes réalisations de l'humanité. Il va au-dessus de tout ce que l'humanité peut faire. Il est libre. Il peut faire ce que l'homme seul ne peut pas faire. Héber. C'est celui qui est libre de toutes les contingences de l'humanité. Il est libre. Alors, je vous délivrerai, je vous ferai passer de la servitude à la liberté. Je ferai de vous un peuple libre. Voilà ce que ça veut dire. Vous serez des fils de la liberté. C'est beaucoup plus positif que l'absence de servitude. Ça. Je vous donnerai une liberté nouvelle. Et c'est ce qui correspond précisément à la crainte de Dieu et à l'apparition d'Aaron, donc du sacerdoce. Le sacerdoce nous fait accéder au pardon, ce que nous allons voir précisément dans la liturgie du Kippour. Puis enfin, il dit, je vous rachèterai. En fait, c'est le verbe gal, je vous rachèterai. Gimel, Aleph, Lamed. G-A-L, si vous préférez. Bon. Alors, ça veut dire, c'est de là que vient Goël, le rédempteur. Goël. C'est. En fait, je vous rédemptorerai, on dirait. Je vous rédemptorerai. Donc, je vous donne un rédempteur. Et ça correspond à Moïse, évidemment. Et puis, enfin, je ferai de vous mon peuple. Je ferai de vous mon peuple et vous serez dans une seule terre. Et je vous ferai venir sur la terre promise, ce qui correspond bien sûr au quatrième décret où on veut supprimer tout le point de vue de l'éducation et de, si vous voulez, de la grâce, du charisme, enfin, ou de la culture propre de la famille des Hébreux. Je ferai de vous mon peuple, je vous prendrai pour être à moi. Et le vrai but, au fond, de toute cette grande montée de l'Exode, c'est de faire qu'on soit un avec Dieu, et que le peuple soit un dans son Dieu. Donc ce qui est très 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 frappant dans le livre de l'Exode, c'est que le mystère du pardon est lié à quelque chose de collectif. C'est un corps mystique qui reçoit le pardon. C'est tout un corps mystique qui reçoit le pardon. C'est tout un peuple qui rentre dans le mystère du pardon. C'est tout un peuple qui vit cette espèce de confession de l'humanité, qui naît de la confession de l'humanité. Il y a une humanité qui est pécheresse et qui fait des décrets. L'Égypte qui fait des décrets ouvertement. Et il naît de là un peuple, un corps mystique, qui peut accéder tout entier au pardon. Vous voyez, il y a toute une structure qui est là. Bon. Sortie d'Égypte, chapitre 12, verset 7. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec le voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte dans les maisons où on le mangera. On en mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes sèches. Donc vous voyez que là encore, le sang de l'agneau qui est le fruit d'un holocauste, il y a un holocauste qui doit être fait pour la première fois de manière familiale. Le sang doit être mis sur la porte pour symboliser précisément qu'on est pardonné dans cette famille. Et du coup, on peut manger l'agneau, c'est l'Eucharistie. Donc vous voyez, vous avez le pardon, puis le mystère, si vous voulez, du salut, le mystère de la confession, enfin, le mystère du pardon, le mystère de l'Eucharistie. Quand on dit l'Holocauste, ça veut dire la contrition. L'Holocauste, c'est notre cœur brûle. Notre cœur est tout chaud, notre cœur est broyé, enfin, il est brûlé par l'amour. L'amour fait que notre cœur est contrit. C'est l'amour qui fait la contrition. Et c'est ce qu'exprime l'Holocauste. On s'offre tout entier au bon Dieu, on dit, Seigneur, j'ai péché, je m'offre tout entier à toi, avec tout ce que j'ai fait de mal. Du coup, après, il y a le pardon, c'est le sang sur la porte. Et du coup, après, il y a l'Eucharistie. Vous voyez, c'est l'agneau. Vous l'avez ici. Et du reste, vous pouvez faire vous-même les recherches. À chaque fois qu'il y a holocauste, à chaque fois, il y a une petite intermède pour exprimer le point de vue du pardon. Et ensuite, il y a le point de vue de la mendication. C'est pour montrer à chaque fois qu'en effet, il y a un lien entre la mendication, entre l'holocauste et puis le pardon. Alors, une fois qu'ils sont en Égypte, vous le savez, on va essayer d'aller assez vite, hein, parce que verset 27, Dieu dit à Moïse sur le Sinaï, bien, il faudrait peut-être que maintenant. On va petit à petit voir s'organiser la fameuse liturgie du Kippour, du pardon. Et pour ça, il faut construire un temple et il faut d'abord construire un caporet, le propitiatoire, un endroit et un autel sur lequel le pardon va pouvoir se réaliser et être efficace et être consacré, et qui engagera Dieu. Bon, donc on construit un autel. Bon, ensuite, Moïse demande au peuple, et Dieu demande à Moïse que le peuple, chapitre 29, verset 10 et suivant, consacre des prêtres. Et vous allez voir qu'effectivement, pour la consacration des prêtres, eh bien, on va avoir à nouveau le bélier qui va apparaître. Chapitre 29, verset 10 et suivant. Donc tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête d'Aaron et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, tu leur revêtiras des tuniques, tu mettras une ceinture à Aaron, à ses fils, tu attacheras des mitres aux fils d'Aaron, leur sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle, et tu installeras Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente de réunion, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant le Seigneur. À l'entrée de la tente de réunion, tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le réseau du foie et les deux rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras fumer tout cela, holocauste, sur l'autel. Mais tu consumeras par le feu, hors du camp, la chair du taureau. Sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Verset 15. Tu prendras un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et ayant lavé les entrailles et les jambes, tu les mettras sur les morceaux et sur la tête, et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste au Seigneur d'agréable odeur, un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Tu prendras le second bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, et ayant pris de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille, de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel avec de l'huile d'onction, tu en aspergeras Aaron, ses vêtements, ses fils, et leurs vêtements avec lui. Et ainsi, il sera consacré, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Et tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles, le réseau du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure. Je m'excuse de tous ces détails. Et l'épaule droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras aussi dans la corbeille des pains sans levain, placés devant le Seigneur, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Vous voyez bien que l'institution du sacerdoce et de l'autel, c'est pour le sacrifice pour le péché, c'est pour le sacrifice de l'Holocauste, c'est pour le sacrifice du pardon. Et la consécration des prêtres, c'est pour qu'ils fassent le sacrifice pour le péché, pour le sacrifice de réparation, pour le sacrifice de communion. Et il y a, en plus, des pains en levain qui sont là comme pour manifester précisément qu'il y a quelque chose qui aura plus tard et qu'on comprendra dans le Nouveau Testament, il y aura l'Eucharistie. Mais dès le départ, le pardon est institué dans une liturgie sacramentelle. Et vous voyez bien que le sacerdoce lévitique, c'est pour le pardon. Et il y a un bélier qui prend le péché et qui est le bouc émissaire, vous savez bien, le bouc émissaire, et qui prend le péché, j'allais dire, du monde. Et puis, on prend un deuxième bouc pour le péché des prêtres. Et pour qu'eux-mêmes, ils puissent donner, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, ils puissent donner ce qu'ils ont reçu. Et donc, à chaque fois, il va y avoir, et dans la liturgie du Kippour, il y aura ça, vous voyez, il y aura une liturgie où on demandera, où le prêtre demandera pardon, c'est ce que je vais vous expliquer, et demandera pardon d'abord pour Dieu, devant Dieu, il demandera pardon pour lui et pour tous les prêtres, et il demandera pardon pour le peuple. Donc il demandera pardon pour le péché en général, il demandera pardon pour ses péchés et péchés du sacerdoce, et puis il demandera pardon pour le peuple, c'est pour ça qu'il y aura toujours trois grands sacrifices. Donc entre le pardon pour le prêtre, donc, qui signifie le pardon du Christ, Jésus a reçu l'absolution du Père. Et c'est ce que manifeste précisément la résurrection. La résurrection, c'est la grande absolution du Père à celui qui était assimilé complètement dans l'état cadavérique au péché, à la mort totale, à l'anéantissement. Et l'absolution, c'est la résurrection. Donc, le pardon pour le prêtre, il est là. Ensuite, il y a l'institution de la confession et il y a possibilité du pardon pour le peuple, c'est-à-dire pour toute l'humanité, pour ceux qui rentrent dans le mystère de la confession. C'est pourquoi donc il y a, tu prends après l'Eucharistie, il y a dans la corbeille des pains sans levain placé devant le Seigneur un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu poseras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron, sur les paumes des mains de ses fils, et tu les balanceras comme offrande balancée devant le Seigneur. C'est un sacrifice. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les feras brûler sur l'autel par-dessus l'holocauste en agréable odeur devant le Seigneur. C'est un sacrifice par le feu. Et ensuite, tu prendras la poitrine du bélier et tu la balanceras comme offrande balancée devant le Seigneur. Ce sera ta portion. Vous voyez le lien qui est extraordinaire entre la victime pour le pardon et l'Eucharistie. Et tu la balanceras comme une offrande balancée devant le Seigneur, ce sera ta portion. Et alors après, il mange le bélier, n'est-ce pas? Tu prendras le bélier d'installation, tu en feras cuire la chair dans le lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente de réunion la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Les deux sacrements se mangent ensemble. C'est très très beau ça. Sacrifice perpétuel. Verset 38 du même chapitre. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité, tous les jours. Tu offriras un de ces agneaux le matin, tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un dixième d'épha de fleurs de farine pétrie avec un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. D'agneau entre les deux soirs, tu l'accompagneras d'une offrande et d'une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice d'holocauste par le feu pour le Seigneur, holocauste perpétuel qui doit être offert par vous d'âge en âge à l'entrée de la tente de réunion devant le Seigneur, là où je vous rencontrerai avec vous pour vous y parler face à face. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire ça aussi. C'est très net que l'agneau, la demande du pardon et la mendication donc de la farine pétrie hein, bah, avec le vin, c'est très très net hein, que les deux, c'est pour vous montrer que c'est pas séparé, et partout, je pourrais vous prendre 50, 60 passages, j'ai pris au hasard, vous comprenez, j'ai pas tout lu en préparant tout ça, mais vous verrez que c'est assez net. Chapitre 39, maintenant il faut dresser la tente, ce qui correspondra au Saint des Saints. Il faut dresser la tente où auront lieu les sacrifices. Chapitre 39, verset 34. Par exemple, on présenta, et justement, c'est Dieu qui demande qu'on fasse comme ça, ils font exactement ce que Dieu a demandé. Et du coup, on présente la demeure à Moïse, la tente et tous ses ustensiles, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. Et la couverture de peau de bélier teinte en rouge. La couverture de peau de veau marin et le voile de séparation, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire, le caporet. Donc au cœur du Saint des Saints, il y a, au cœur de la tente, il y a le caporet, le lieu du pardon, le lieu où le pardon devient efficace, et qui recouvre à l'intérieur et à l'extérieur la tente des peaux de bélier teintes en rouge. Bélier, les peaux de bélier, donc la chair du bélier, couleur sang. C'est extraordinaire ça, comme... Donc c'est vraiment extraordinaire. Le bélier, je pense que vous comprenez maintenant que le bélier, c'est celui qui fait qu'on est pardonné. Le bélier, c'est celui qui remplace Isaac. C'est celui qui est sacrifié à la place d'Isaac et qui fait que le salut est entré, que Dieu est entré dans un peuple. Qui fait que Dieu est présent personnellement dans un peuple et qui fait l'unité substantielle de tout ce peuple. C'est ça le bélier. C'est ce que Pharaon n'a pas voulu assumer chez lui. Et donc, voyez bien que la tente elle-même, c'est-à-dire qui représente au fond l'Église, l'Église, elle est fabriquée à l'extérieur par le mystère de la confession, à l'intérieur par le mystère de la confession, c'est elle est couverte, et au centre, c'est le mystère du pardon, du propitiatoire, l'accueil du pardon, le propitiatoire, le caporette. Ça, c'est très net, voyez, c'est la grande structure du livre de l'Exode. Et c'est au milieu de ce contexte-là qu'il va y avoir l'organisation de la grande liturgie de la fête des tabernacles que j'espère pouvoir vous expliquer, parce que je crois que... Il me reste combien de temps, là? 20 minutes. Ah bon, je peux vous expliquer ça en 20 minutes. Parce que comme ça, on en aura terminé avec... parce que c'est ardu, hein, ça. Mais il faut le savoir, hein. Il faut savoir ce que c'est que la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est très sympathique, la fête des tabernacles. Bon, je laisse tomber la Bible, je vous l'explique seulement. Parce que je pourrais le prendre, c'est dans le Lévitique. Hein. Alors si vous voulez, dans le Lévitique, je vous donne ceux qui veulent noter. Rite des sacrifices, chapitre 1 du Lévitique, verset 1 et suivant. Toutes les liturgies du Kippour, de la fête des tabernacles, de la fête des tentes. Sacrifice pour le péché, chapitre 4. Sacrifice pour l'Holocauste, chapitre 1. Sacrifice pacifique ou sacrifice de communion, chapitre 3 du Lévitique. Confession des péchés avec l'offrande pour le pardon du taureau pour les prêtres, du bouc pour les chefs, et des chèvres pour les hommes, ou une tourterelle et des pigeons. Chapitre 4, verset 5. Offrande du bélier pour tous les péchés contre Dieu. Chapitre 16, verset 21, avec l'obligation de la confession et l'apparition du bouc émissaire. Tout ça, c'est à l'intérieur de la liturgie du Kippour. Maintenant, je vais vous expliquer comment la liturgie du Kippour, pas besoin qu'au fond qu'on regarde les textes, vous regarderez vous-même, et je vous en donne en fond l'organisation. Vous avez déjà entendu dire que les Juifs fêtent le Kippour, je pense, n'est-ce pas? Ça s'appelle la fête du Kippour, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. Et il y a beaucoup de choses que Jésus fait à l'occasion de la fête des tabernacles. C'est quelque chose qui a lieu vers le 15 du 7e mois. Ça dure une quinzaine de jours, et c'est vers septembre-octobre, quoi, à peu près. C'est un peu, disons fin septembre, à peu près, de chaque année. C'est après les moissons, c'est après les récoltes. Après les récoltes, eh bien, les Juifs se rassemblent, le peuple de Dieu se rassemble, et va exprimer un retour vers Dieu avec tout ce qu'ils ont récolté de cette terre. Et ils vont apporter ce qu'ils ont fait sur cette terre. Mais ils vont apporter ce qu'ils ont fait sur cette terre, toute leur moisson, avec une joie immense et une liberté immense. Et donc, ils ne s'enferment pas dans leur maison. Ils vont fabriquer, on va appeler ça aussi la fête des cabanes. Ouais, je ne sais pas si c'est merveilleux, cette fête des cabanes, parce que les Juifs, donc, organisent, ils font une petite cabane, et ils font des branches, des feuillages, et puis, pendant 10 jours, ouais, ils vont rester, ils vont vivre là, ils vont manger là, ils vont discuter là, ils seront pas dedans, ils seront sous des tentes, sous des cabanes. La fête des tabernacles, que ça représente, ils sont dans le pardon. Ils sont dans cette tente que Moïse symbolise, la tente que Moïse a demandé de construire, quand sur le Sinaï, le Messie a dit, voilà, il faut que tu construises un grand temple avec un saint des saints et tout. C'est vraiment la fête de la sanctification, du pardon, de la joie. On apporte tout ce qu'on a fait, et c'est les récoltes. Et donc, le pardon dans l'Exode est vu comme quelque chose, la confession, le mystère de la confession, est vu comme quelque chose qui est extrêmement joyeux. C'est la joie. On va au mystère de la confession avec une allégresse, une joie, une liberté, une légèreté. Voilà ce qu'on a récolté. Voilà, j'ai récolté j'ai blasphémé, que j'ai tué 10 personnes depuis avant-hier, j'ai sali tout le monde, etc. Il y a eu plein de choses, quoi. Voilà, j'ai toutes mes récoltes, merveilleux. Et très joyeusement, je vais vers la sanctification, n'est-ce pas ? Je passe. C'est ça, c'est très beau, du reste. Et ça dure, ça dure une dizaine de jours. Et tout commence, justement, par le Kippour. Le Kippour qui a lieu... 10 jours à peu près, ça commence par le Kippour, le fameux jour du Kippour, qui est le jour donc du pardon. Alors, en hébreu, si vous voulez savoir comment ça s'appelle, l'ensemble de la fête, ça s'appelle la fête de Sukkot. Alors nous on traduit la fête des cabanes, la fête des tabernacles, la fête des... Pas tout ça. Hein. Et il y a un jour, le premier jour, qui s'appelle le Kippour. Et le dixième jour, qui s'appelle le Hosanna Rabba. Hosanna Rabba. Je vous l'écris. Le Hosanna Rabba. C'est-à-dire, pendant toute cette fête, ils disent Hosanna. Hosanna. Rabba, ça veut dire important, principal. Le Hosanna, le jour principal, le plus important de la fête, c'est le Hosanna Rabba, c'est le dixième jour. Donc la fête des tabernacles commence par le Kippour et se termine par le Hosanna Rabba. Mais pendant les 10 jours, c'est Hosanna. Et pendant tout le temps, on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et tous les jours, on chantera Hosanna. C'est la fête des lumières, c'est la fête de l'eau. On rentre dans la lumière, on rentre dans la purification de l'eau. La fête des lumières, c'est là que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». C'est dans la fête des tabernacles qu'il le dit. Et celui qui vient à moi, eh bien, il deviendra une source d'eau vive. Venez à moi, vous tous qui avez soif. C'est dans la fête des tabernacles qu'il dit ça. Et une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a proclamé tout ça, le lendemain du Hosanna Rabba, Jésus, le lendemain ou le jour, je ne sais plus, c'est au chapitre 7, je crois, de l'évangile de Saint Jean, on amène la femme adultère à Jésus. Dans un contexte, justement, où tout le peuple d'Israël vient de célébrer le pardon, on amène la femme adultère en disant, tu la condamnes ou pas ? L'évangile, c'est bien de connaître que l'évangile se fait quand même dans un contexte particulier. C'est pour ça que c'est quand même important de savoir ces choses-là. Et donc, le Hosanna Rabba, qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna ? C'est Hosha et Na. Bon. ça veut dire sauve-nous. Vous ne saviez peut-être pas ça, quand vous dites Hosanna au plus haut des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, de grâce, sauve-nous. Tu savais ça ? De grâce, sauve-nous. Mais c'est un de grâce, sauve-nous. Hosanna, Hosanna, qui est dans la joie des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. Ils quittent l'Égypte. Quand on va voir le prêtre, sacrement de pénitence, vous comprenez, on a déjà demandé pardon, on a déjà la contrition, on a déjà le pardon de Dieu, on est déjà sorti du péché. L'absolution va faire que ce pardon qui nous a été donné va être totalement transformé. Et on sait qu'on est pardonné par Jésus. Et c'est pour ça qu'on va voir Jésus concrètement pour que notre pardon explose, qu'il y ait quelque chose qui se répande partout. Alors, il y a une joie, il y a une allégresse, il y a une liberté incroyable. Et tout le temps, Hosanna, Hosanna, c'est merveilleux ça. Alors, la hutte, ça veut dire Sukkot. Et pendant qu'on fait Hosanna, on doit prendre dans la main gauche une plante. Vous voyez, c'est la fête des tentes avec des branchages, etc. C'est très important. Et parce que les plantes, les arbres, ça, c'est le symbole, comme on le voit beaucoup, très souvent dans les psaumes, c'est le symbole de l'homme. La vigne, le cèdre du Liban, l'olivier, tout ça, c'est le symbole de l'homme. Et vous avez aussi la menorah, vous savez, qui est cette espèce d'arbre à cette branche, cette chandelier à cette branche qui représente l'arbre, qui représente l'homme. Mais ça, je vous ferai une autre fois le symbole de chandelier à cette branche. C'est absolument extraordinaire. Vous pouvez faire le catéchisme pendant un an des enfants uniquement avec le chandelier à cette branche. Donc, c'est très très riche le chandelier à cette branche. Ça représente l'homme, c'est l'arbre. C'est l'homme qui est en plénitude, qui brûle dans l'amour dans toutes les directions, qui est dans l'huile de l'onction. Il y a plein de symbolismes comme ça qui sont très parlants. Et justement, à la fête des tabernacles, on allume la menorah dans le temple d'Israël. Et c'est une fête de flammes. C'est des menorahs qui sont énormes. Et ça flambe là-dedans. On voit de tous les endroits de Jérusalem, on voit la lumière qui sort de la menorah du temple de Jérusalem. Et puis il y a beaucoup de trompettes, beaucoup de musique. Je crois qu'il y a 3000 musiciens. Qui sans arrêt, sont en train de... Une branche de saule, c'est ça, une branche de myrte et une branche de palme, les palmiers. C'est curieux, on a retenu que la palme hein, pour le dimanche du rameau. Hein. Et on agite comme ça. Voilà, dans la main gauche, on a le sidra, dans la main droite, on a la myrte, la palme et le saule. On a trois branches. Et tout le peuple d'Israël, dans les liturgies du matin, les liturgies du soir, font le tour d'un espèce d'autel qu'ils ont construit, où ils ont mis la menorah, où ils ont mis des rouleaux de la Torah. Et puis, ils agitent dans les six directions de tout l'univers. Et les six directions, ça veut dire vers haut, vers en bas. Et vers les quatre points cardinaux, ils agitent leur branche pour exprimer que
Seigneur, sauve-nous, ça veut dire tout le cosmos, toute l'humanité à travers l'univers. Et en fait, ça représente le sidra, la myrte, la palme et le saule. Bah, ça représente, d'après le Midrash, ça voudrait vous lire quand même ce que ça peut représenter, c'est quand même très beau. Le sidra représente le cœur, la sensibilité. Ça veut dire que c'est tout l'homme qui crie vers Dieu, Hosanna, Hosanna. Seigneur, de grâce, sauve-nous. La branche de palme, vous savez, la branche de palme, ça veut dire être tenue bien droite, parce que ça représente l'homme qui est debout. C'est l'homme qui est droit, j'adore. C'est tout l'homme, c'est l'homme qui a sa rectitude. La myrte représente les yeux. C'est tout ce que l'homme voit, regarde, contemple. Et enfin, la bouche. Le saule, vous savez, les saules, c'est ces espèces d'arbres avec des énormes trous comme ça. Ça représente la bouche, ça représente justement la bouche de l'homme qui crie Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Seigneur, sauve-nous. Et donc, c'est tout l'homme, c'est tout Israël qui est représenté par ces quatre plantes, mais tout Israël aussi. Alors le Midrash dit le cédra représente en Israël les hommes vertueux et sages. Parce que le cédra est une plante qui a à la fois une bonne odeur et qui, quand on le goûte, a une très belle saveur. Donc, quand il goûte, quand vous goûtez du cédra, je ne sais pas ce que c'est que le cédra dans notre... En tout cas, ça a bonne odeur et en même temps, ça donne bonne saveur dans la nourriture. Alors, ça représente en Israël les hommes vertueux et les hommes sages, ceux qui connaissent parfaitement la doctrine et en même temps ceux qui respectent les commandements et les préceptes. Il y a la myrte qui a une très bonne odeur mais qui n'a aucune saveur et donc qui représente les hommes qui connaissent bien la doctrine, qui connaissent bien la Torah mais qui ne la mettent pas en application. Il y a, c'est pour ça que donc c'est à gauche que se trouve la sidra, et puis il y a les petites déficiences d'Israël à droite. La palme a une très bonne saveur, vous savez, c'est bon, un bon repas de palmier, vous savez. A une très bonne saveur, mais n'a aucune odeur. Donc c'est pour ceux, c'est pour les pauvres gens qui ne connaissent pas la doctrine, mais qui respectent, qui sont des saints. Qui ne connaissent pas. Ils ont son dessin, comme mon sadou. Ça, c'est tout à fait. C'est la palme. C'est le palmier, lui. Au milieu du sel. Il y a un oasis quelque part. Au milieu du sable. La multitude. Et enfin, le saule n'a ni odeur, ni saveur. Ça représente ceux qui ont abandonné, qui ne connaissent pas, qui sont les mécréants, quoi. C'est les mécréants, tout simplement. C'est le saule. Et c'est pour ça que c'est le saule qui crie Hosanna. Le saule est la plante qui ouvre la bouche pour crier Hosanna. Vous voyez, c'est le peuple d'Israël qui crie Hosanna, Seigneur de grâce, sauve-nous, à la place de tous les mécréants. Et il reconnaît que lui-même, il se précipite dans toutes ces dimensions de ces quatre plantes, il se précipite dans ce qu'il est réellement, il n'est que précisément qu'un mécréant, finalement. Et il rejoint donc, vous voyez, tous les pécheurs à travers ça. C'est très très beau de regarder ces... Alors, dans la synagogue, dans la prière du matin, comme je vous le dis, on agite dans les six directions de l'espace toutes ces plantes afin de proclamer la royauté de Dieu sur la nature, sur l'humanité, sur l'histoire. Et on chante Hosanna. Et on fait un ensemble de prières, on fait un ensemble de prières explicites pour demander à Dieu un salut. Dans un premier temps, il y a toute une liturgie que vous lirez justement dans les passages du Lévitique que je vous ai signalé. Vous verrez que la prière du Kippour, la prière du Hosanna Rabba, pardon, est une prière qui demande le salut au niveau économique. Donc, si le péché a détruit, au fond, le cosmos et la nature, la demande du pardon demande qu'au niveau économique, la nature donne quand même son fruit, même si c'est vrai, à cause du péché, elle ne devrait plus donner de fruit. En raison du reste d'une liturgie de pardon, que la vie continue au niveau de la nature sur la terre. À partir du moment où le pardon diminue, On s'aperçoit que les saisons changent et on s'aperçoit que la sécheresse arrive et puis qu'il va y avoir évidemment de plus en plus de famines. Et on va demander une paix politique, on va demander la paix au niveau de la nation, la paix pour Israël et la paix pour l'humanité. Il y a une dimension sociale, si vous voulez. On va demander pardon, bien sûr, pour obtenir un salut d'ordre spirituel et moral. Et enfin, on va demander pardon pour la division de l'humanité et on va demander pardon pour que l'humanité retrouve son unité et on demande la réconciliation dans la liturgie du Hosanna Rabba entre les nations et les juifs. Voilà les quatre choses que dans la liturgie on demande. Qui est étonnant parce que dans la liturgie du Kippour. Bon, je voudrais signaler encore que dans le livre des Nombres, chapitre 29, versets 12 et suivants, Moïse demande d'offrir en holocauste pour le fameux jour du Hosanna, pour tous les jours, pour les 10 jours de la fête de Sukkot, il lui demande le premier jour de sacrifier en holocauste 13 taureaux. Le deuxième jour, 12. Le troisième jour, 11. Et le septième jour, 7. Total, 70 taureaux. Donc vous voyez, vous avez le Kippour, le pardon est donné, et puis cette joie immense de la fête des tabernacles. Au fond, le Kippour, c'est une espèce de liturgie particulière qui va ouvrir la fête des tabernacles. Et dans la liturgie du Kippour, là, pour l'instant, ce que je vous faisais, c'était la liturgie de tous les jours, de la fête du tabernacle. Mais le premier jour, le peuple d'Israël vient et confesse son péché. Et il y a toute une liturgie pour confesser le péché. Et il y a une formule pour la confession du péché. La formule de la confession usitée en tout Israël est « En vérité, nous avons péché ». Tout le peuple d'Israël dit, en vérité, nous avons péché. Et on doit confesser qu'on a péché. On ne peut pas recevoir le pardon si on ne reconnaît pas notre faute. Et donc le prêtre doit dire, Seigneur, en vérité, nous avons péché. Et tout le peuple dit, oui Seigneur, en vérité, nous avons péché. Et on confesse le péché, le nôtre. Le prêtre confesse le sien et ceux du peuple. Et le peuple confesse le sien et ceux du monde entier. Pendant toute la liturgie du Kippour, c'est comme ça. Et le Midrash rajoute, donc, la formule de la confession usitée en tout Israël est « En vérité, nous avons péché. » Et c'est là l'essentiel de la confession. Vous voyez, c'est une confession collective. Dans le traité du service des jours du Kippour, dans le Maïmonide, la formule que le grand prêtre faisait 3 fois dans le temple, une pour lui, une pour les prêtres descendants d'Aaron, une pour le peuple, à chaque fois avec 3 fois le nom, Yod, He, Vav, He, intégralement prononcé. Vous savez qu'on ne prononçait le nom de Dieu qu'à cette occasion-là, vous savez bien. Et on ne sait pas aujourd'hui comment il se prononçait. Hein. Donc il se prononçait 3 fois le jour du Kippour. Une fois pour le prêtre, qu'il disait, une fois pour tous les prêtres, une fois pour le peuple tout entier. Alors, tous les prêtres, à genoux, à la proclamation du nom de Dieu, le nom de Dieu exprime qu'il est présent, ça y est. Alors, tous les prêtres, à genoux, s'exclament, « Béni soit le nom de la gloire de son règne, son nom glorieux, majestueux en toute éternité. » Puis le prêtre jetait le sort sur le bouc émissaire et disait « Ah, Yod, He, Vav, He, sacrifice expiatoire. » Au total, le nom de Dieu était prononcé 10 fois, puisqu'il faisait 3 fois dans le temple, ce que je viens de vous expliquer, 3 fois dans le temple, il faisait cette formule, et puis ensuite il reprononçait une nouvelle fois le nom de Dieu en le mettant sur le bouc émissaire.
représente bien sûr le Christ. Le Christ. Et alors, 10 fois, pourquoi il y a 10 commandements? Donc c'est pour toutes les sortes de péchés. Le jour du Kippour, au fond, Dieu prononce un verdict pour chacun. Et au jour du Hosanna Rabba, Dieu casse son verdict et remet tous les péchés. Mais le pardon est déjà donné, si vous voulez, lorsque, c'est facile, lorsque vous allez à la confession, vous êtes déjà pardonné. Mais encore faut-il que vous commenciez la liturgie. Et pourtant, le pardon et le verdict n'est donné qu'à la fin. L'absolution. Et lorsque vous y allez, vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous n'y allez pas, c'est parce que vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur. Le pardon est donné dès que vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Mais le signe que c'est vrai, c'est que vous y allez. Et au fond, c'est ça. Et donc, toute la liturgie du Kippour, vous voyez, ça veut dire, qui est le jour des expiations, voilà, vous voyez, le grand prêtre rentre dans le temple, dans le Saint des Saints, il prononce le nom de Dieu, il offre les fameux sacrifices, et puis il ressort. Et c'est ce que Jésus a fait. Et vous verrez, je ne sais pas si on aura le temps de le regarder, mais si ce n'est pas le temps de le regarder, parce qu'il faut qu'on passe tout de suite à expliquer un petit peu plus dans le détail le mystère de la confession, dans le concret, vous verrez que c'est toute l'épître aux Hébreux qui montre que le bouc émissaire, c'est le Christ, le grand prêtre, c'est le Christ, le Saint des Saints, c'est le Christ qui rentre au-delà du voile, dans le sein du Père, dans le Saint des Saints. Et au fond, le vrai caporette, c'est le corps du Christ. Le véritable autel de l'Holocauste, du pardon, c'est le corps du Christ qui rentre au-delà du voile, épître aux Hébreux. C'est lui le grand prêtre qu'il nous fallait. Et toute la liturgie, toute l'épître aux Hébreux, vous verrez, reprend tous ces éléments que je viens de vous expliquer. Il y a beaucoup de choses que vous comprendrez dans l'épître aux Hébreux, uniquement parce que vous savez comment fonctionne la liturgie du Kippour. Na, de grâce, nous t'en supplions, Osha, impératif du verbe sauver, sauve-nous. Alors, à ce moment-là, lorsque tout le peuple dit cela, on illumine le chandelier à cette branche et la fête des tabernacles commence. Oui, c'est très beau. Bon, je vous signale quand même encore une chose, que dans le premier livre des Rois, chapitre 8, la dédicace par Salomon du temple de Jérusalem, la première fois que le temple a été construit, Salomon a fait la consécration du temple pour le jour de Soukhot, à l'occasion de Soukhot, donc à l'occasion d'une liturgie du pardon. Qui montre bien que le temple de Jérusalem et tout le mystère d'Israël, tout le mystère des sacrements, vous voyez, il est structuré quand même dans la confession, il se termine dans la confession. Et puis le point de vue simplement de l'Eucharistie est central. C'est vrai, il n'y a qu'à regarder la confession de Jésus toute sa vie. À la fin de sa vie, il institue l'Eucharistie, et puis l'institution de la confession après l'absolution. La Pâque, c'est l'absolution, et l'institution de la confession. Donc vous voyez bien que la confession est enveloppante. Elle commence, elle achève. C'est ce que nous essayons de comprendre un tout petit peu plus la prochaine fois que nous allons nous retrouver. Hein? Le Père des pauvres illumine notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité toute entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Nous allons terminer, si vous voulez bien, une petite méditation biblique. De grande montée. Regardez comment l'Esprit Saint a enseigné les hommes croyants à travers la foi à comprendre que le pardon ne pouvait pas venir d'eux, mais qu'il venait de Dieu lui-même, qu'il venait de Dieu en personne. Alors, je sais bien que c'est un... On va quand même donc terminer beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu prévoir, parce que maintenant qu'on a vu la fameuse grande liturgie dans l'Ancien Testament du Kippour, du pardon,
de la fête de Sukkot, le tabernacle, on peut quand même regarder un tout petit peu, quelques petits passages, beaucoup plus aériens, notamment dans le livre des psaumes, du cantique des cantiques, de l'ecclésiastique, avant d'en arriver, si vous le voulez bien, à l'évangile. Et puis, on va passer à l'évangile, et ce soir, nous répondrons à toutes les questions qui se sont posées. Donc, je vous propose d'abord de regarder, bien entendu, le fameux psaume 50. Et dans le psaume 50, qui est le psaume vraiment de la confession, vous savez, David avait commis un fameux péché, il avait tué le mari, il avait fait tuer l'époux de Bethsabée, cette femme qui était jeune, belle, et qui se baignait dans la piscine de la maison voisine, de la maison du roi, et il s'était épousé. Et du coup, effectivement, il avait fait comme une faute. Et du coup, il a écrit ce psaume 50, qui est un psaume où il confesse son péché, il demande pardon. Pitié pour moi, mon Dieu, selon ton immense bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon offense. Purifie-moi de mon péché, parce que je reconnais mes transgressions. Il n'y a qu'une seule raison. Oui, il y a un seul parce que. C'est parce que je reconnais mes transgressions. Si je ne les reconnais pas, il n'y a aucune possibilité pour Dieu de me rejoindre dans le don parfait qu'il veut me faire. Le don parfait, c'est le pardon. Et évidemment, si je n'accepte pas cette dimension du pardon, c'est le signe que je ne veux pas recevoir Dieu. Quand Dieu se donne parfaitement, il se donne lui-même, et c'est ce qu'on appelle le pardon. Et c'est parce que je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Création nouvelle. Et renouvelle au-dedans de moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Tu ne désires pas de sacrifice. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices de Dieu, Sukkot, avec tous les taureaux, 13 taureaux, plus 12 taureaux, plus 11 taureaux, plus 10 taureaux, plus 9 taureaux, plus 8 taureaux, plus 7 taureaux, 70 taureaux, pendant la fête de Sukkot. C'est des rites, tu t'en fiches de ça. On ne fait pas les rites, ce n'est pas les rites qui donnent le pardon. C'est ce que ces rites signifient. C'est pas la, c'est par exemple, c'est facile, c'est pas la messe. Voilà, on va à la messe. C'est pas la messe qui nous donne Dieu. C'est pas les rites de la messe. C'est pas le fait d'aller à la messe. C'est ce que la messe signifie qu'on reçoit. Parce que et vous voyez, parce qu'il y a des gens qui matérialisent. Alors, ils matérialisent et ils se font une petite religion et ils trouvent la petite sécurité là-dedans. C'est faux, ça. Et le pécheur, il s'en rend compte de ça. Quelqu'un qui est dans le péché, qui a péché, qui s'est séparé de Dieu, qui sait quelque part qu'il est séparé de Dieu, qui n'a pas pleinement unité avec Dieu, il sent ça. Aller à la messe, ça ne va pas. Ça ne suffit pas. C'est pas ça. Aller à la messe, c'est très important à cause de ce que la messe contient. Qui est la coquille, c'est très important, mais c'est important, c'est l'œuf qui est dedans. C'est ce qu'il y a à manger, la coquille. Seulement, il se trouve que Dieu a voulu que ce soit que ce qu'il y a dans l'œuf soit inséparé de la coquille. Mais si tu prends la messe que par la coquille, c'est pas très nourrissant. C'est évident. Alors tu vas à la messe, mais tu prends que la coquille. Et tu trouves que c'est lourd, du coup. Mais il n'y a pas que la coquille, justement. Alors, et ma bouche publiera ta louange, parce que tu ne désires pas de sacrifice, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé, du cœur qui est brisé et broyé et contrit. Seigneur, tu n'as pas de mépris. Verset 19. Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sion. Bâtis, rebâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras les justes sacrifices, l'holocauste et le don parfait. Ah, vous voyez, on ne rejette pas les rites. Oui, je rejette les rites, il n'y a que les rites. La religion, vous savez, avec ces rites. Les gens qui vivent des traditions religieuses, mais ils ne rentrent pas dans la sainteté de ce qui est dans les sacrements, dans. Alors, oui, si je rentre dans la sainteté avec un cœur, voyez, broyé, avec un cœur contrit, avec un cœur brûlé par la charité, alors à ce moment-là, je peux rentrer dans le rite. Je peux rentrer dans le fameux rite du Kippour, de Soukhot, du pardon. Et c'est tout Sion. Et c'est tout Jérusalem qui est présent à ce moment-là. C'est-à-dire le corps messie. Voyez, vous l'avez ici, le psaume 50 est très beau. Je vous propose de regarder maintenant le Cantique des Cantiques, parce que quand même, il faut faire un petit passage sur le Cantique des Cantiques, normal. Je vous rappelle que le Cantique des Cantiques, c'est après les psaumes, les proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas ? Alors, chapitre 2, verset 14, vous savez, Cantique des Cantiques, c'est l'amour extraordinaire qu'il y a justement dans le don parfait. Quand le pardon est mutuel, il ne reste plus que l'unité de l'époux et de l'épouse. Alors ce chant de l'époux et de l'épouse, il est là dans le Cantique des Cantiques, il est merveilleux. On a comme une espèce de trace, je n'ai pas le temps de trop vous en parler, mais de la manière dont l'Immaculée vit de la confession. L'épouse de l'époux, c'est-à-dire l'épouse du Messie, l'épouse du Christ, l'épouse du Rédempteur, l'épouse du Ressuscité, elle fait ce que fait l'époux. L'époux confesse les péchés du monde, l'époux confesse ce qu'il est, il est le Verbe et il est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, il le tient de Dieu, son Père, et du coup il produit l'amour de l'Esprit-Saint. Il confesse qu'il est l'amour, il confesse qu'il est en pleine lumière l'amour, il confesse qu'il est la lumière de l'amour. Il confesse qu'il est la vérité de l'amour. Il confesse qu'il est la lumière véritable dans la très sainte Trinité. Et du coup, quand il est crucifié, il confesse qu'il est la lumière de l'amour et qu'il aime tous les hommes, que l'homme est tout entier rassemblé en lui avec toutes ses iniquités. Donc il confesse qu'il est le péché. Et il confesse le péché. C'est pour ça qu'il meurt. Cette confession va jusqu'à la substance, c'est pour ça qu'il meurt. Je vous rappelle que Jésus n'est pas mort d'une manière naturelle. C'est la confession des péchés qui l'a tué. Il est mort d'amour. D'ailleurs, c'est ce que dit le Père à Sainte Catherine de Sienne. Il fait remarquer, Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne, dans le dialogue, lui fait remarquer que la seule blessure mortelle vient 3 heures après sa mort. Et que les soldats qui sont les spécialistes de la crucifixion sont très étonnés de voir qu'il est déjà mort. Et Jésus l'avait dit avant, on ne prend pas ma fille, c'est moi qui la donne. Le pardon, c'est Jésus qui donne sa fille. Il donne toute sa vie. Et à chaque fois que vous avez reçu l'absolution, tout son sang, toute sa crucifixion, c'est planté dans votre cœur, comme l'œuf dans sa coquille. Attention, Il n'y a plus que du blanc. Il n'y avait que du blanc dans l'œuf, dans la coquille. Maintenant, il y a du jaune au milieu. Cassez la coquille, vous verrez encore le blanc. Et enlevez le blanc, vous verrez le jaune. Mais vous ne pourrez enlever le blanc qu'à la résurrection, quand vous serez au ciel. Mais vous verrez, vous serez très étonné ce qui s'est passé à chaque absolution. Confession de Jésus sur la croix. Elle est là, ça y est. Présence réelle dans votre cœur. Tandis que vous communiez dans l'Eucharistie, le corps de Jésus descend où ? Dans votre corps. Corps contre corps. Confession, cœur contre cœur. C'est vraiment... C'est l'épouse, alors. Comment Marie a vécu cette confession ? Elle a confessé. Elle a confessé ce qu'elle était. Chapitre 2, verset 14. Vois de mon bien-aimé. Voici, il vient bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines. Mon bien-aimé prend la parole, il dit, lève-toi, mon ami. Ma belle, viens, voici, l'hiver est fini. La pluie a cessé, elle a disparu. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps des champs est arrivé. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Le figuier pousse ses fruits naissants. La vigne en fleurs donne son parfum. Lève-toi, mon habit, ma belle, et viens. Alors l'épouse, ma colombe qui te tient dans la fente du rocher, dans l'abri des parois escarpées, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. L'épouse. Faut pas oublier que la confession du Messie rédempteur, quand il confesse les péchés devant le Père, il se joint, c'est lui le nouvel Adam, il faut que ce soit la confession de l'humanité tout entière. Mais l'humanité n'est tout entière que dans l'unité de l'homme et de la femme. Dans l'unité des deux. Et donc il faut la confession de la femme. Comment Marie a confessé, parce qu'elle s'est blottie dans le creux du rocher. La blessure du cœur de Jésus. Broyée. Contrie. Déchirée. Par cette séparation de l'amour des hommes et de l'amour de Dieu. L'amour des hommes s'est séparé de l'amour de Dieu. Ça a arraché. Ça l'a mis dans une ouverture, le coup de lance. Le coup de lance, c'est le soldat qui l'a fait, mais c'est l'Esprit Saint qui guidait. Il n'a pas dû. Le coup de lance n'a pas dû avoir beaucoup de difficultés. Dès que la petite pointe a touché, tu as arraché ça. Le cœur, tu es déjà déchiré. Et l'Immaculée, elle s'est blottie dans le creux du rocher. Dans cette fente-là, elle s'est mise là. Ma colombe qui te tient dans le creux du rocher, dans l'abri des parois escarpées. Et voilà sa confession. Montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Voilà comment on confesse ses péchés. Quand on veut confesser ses péchés, quand on veut confesser ce qu'on est, comme l'Immaculée, vous savez très bien. Il ne faut pas confesser ses péchés autrement qu'elle. C'est trop grand, c'est comment ? Un mystère divin, c'est très grand. L'Immaculée, elle s'est mise dans le cœur ouvert de Jésus, mort, dans le creux du rocher. Et c'est là, c'est dans ce lieu-là qu'elle habite. Elle se met dans le cœur de Jésus. Et elle regarde. De l'intérieur de son cœur, elle ne le regarde pas de l'extérieur, elle le regarde du centre de son amour, le plus pur, le plus substantiel, puisqu'il est dans un état d'amour substantiel, substantiel, forcément substantiel, puisqu'il est mort. Donc c'est une passivité substantielle d'amour. Et c'est de centre de cet amour-là qu'elle regarde Jésus. Et elle s'aperçoit que Jésus atteint
l'amour de Dieu. Et tous les amours humains, quels qu'ils soient, elle le voit, elle le regarde. Et ce regard fait qu'elle est présente à cet amour. Et elle joint cette présence à la présence d'amour de Jésus. Et c'est ce que Jésus lui demande. Fais-moi entendre ta voix, c'est-à-dire cette présence, ta présence au centre de mon cœur blessé. Fais-la-moi entendre. Dans l'Ecclésiastique, le chapitre 18, verset 12, qu'est-ce que l'homme ? C'est Salomon. C'est Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques, et c'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que l'homme ? À quoi est-il bon ? Quel est son bonheur ? Quel est son malheur ? Le nombre des jours de l'homme est au plus de 100 ans, comme une goutte d'eau prise dans la mer, comme un grain de sable, ainsi ces quelques années au jour de l'éternité. L'amour de l'homme, c'est pas grand-chose. Même celui qui aimerait le plus, un immense adorateur, un type qui adorerait Dieu, qui servirait Dieu, qui obéirait à sa providence, qui vivrait de l'amour de Dieu, Plotin par exemple. C'est quoi ça ? C'est un grain de sable, c'est rien du tout. Rien. Parce que adorer et reconnaître que Dieu est là et aimer Dieu de tout notre cœur humain, c'est naturel pour nous, c'est normal. Mais aimer Dieu à partir du kippour, du kapar, du pardon du Messie, c'est plus du tout un grain de sable. C'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes et il répand sur eux sa miséricorde. Il voit, il reconnaît que leur fin est déplorable. C'est pourquoi il use de sa liberté pour pardonner. La liberté de Dieu, c'est de tout donner lui-même. La miséricorde de l'homme s'exerce envers son prochain, mais la miséricorde de Dieu s'étend à toute chair. Ça, c'est beau, ça. Ah, mais moi, j'ai du pardon. Moi, j'ai du pardon, je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tous ceux qui me font du mal. Je pardonne. C'est bien beau, remarquez bien, c'est vrai. Humainement, c'est merveilleux. C'est vrai. Et du reste, Jésus, il demande qu'on fasse ça, attention. Il ne dit pas, tu pardonnes de nouveau nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est sûr. Mais s'adresse à ton prochain. Tandis que la miséricorde de Dieu, mais du pardon à travers le mystère de la confession, ça s'adresse à tous les hommes. À travers nous, c'est tous les hommes. Nous faisons miséricorde à tous les hommes, à chaque fois que nous confessons. Le mystère de la confession, c'est un mystère. Ça dépasse complètement. C'est plus à notre mesure. C'est marqué, vous voyez, la miséricorde de l'homme s'exerce envers son prochain, mais la miséricorde de Dieu s'étend à toute chair et ramène au bercail, comme le berger son troupeau. Oui, j'espère que vous sentez, à mesure de qu'on lit la Bible, que tout ce qu'on a vu, surtout hier et ce matin, bon, que le sacrement de confession, c'est vraiment collectif. Il y a vraiment une communauté. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très fort, ça. Il y a tout un... C'est pas aux dimensions de l'individu, c'est aux dimensions de toute l'humanité. Et ce qui permet ce lien, Et cette efficacité de la miséricorde sur toute chair, c'est le mystère de Jésus, qui est la confession des péchés, et la présence réelle de la confession des péchés, qui est Jésus, crucifié. Elle se réalise, elle se donne dans le mystère de la confession, dans le sacrement de la confession aussi. Mais d'abord dans le sacrement de la confession, puis dans le mystère. Parce qu'il faut d'abord que Dieu, le Verbe, le Messie, s'incarne dans un corps avant de ressusciter dans l'esprit. Et c'est pourquoi on doit passer d'abord par le sacrement de la confession avant de rentrer dans le mystère de la confession. Parce que Dieu, il aurait très bien pu pardonner sans s'incarner, hein. Il dit, bon, ben voilà, ce pauvre type, allez, j'ai fait une fois le déluge, pour montrer que, hein, et puis une autre fois, je les pardonne tous, allez, j'en fais tous des saints d'un clin d'œil, allez hop, terminé. Il n'a pas fait ça. Il aurait pu. Il n'a pas fait ça. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de sacrement de confession. Regardez la difficulté qu'on a avec le sacrement de confession. Pourquoi est-ce qu'on a une difficulté avec le sacrement de confession, hein? Est-ce que c'est parce que le sacrement de confession est une chose abominable? Non! C'est notre orgueil qui est abominable. Bon, on le voit pas. Comme miséricorde et pardon.